partie d'extrême gauche Die Linke comme candidate. Elle n'a toutefois aucune chance contre le candidat des partis de la coalition gouvernementale. Le candidat en question, c'est Joachim Gauck. C'est l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion libérale, qui l'affirme aujourd'hui. François Hollande a globalement bien chiffré les dépenses prévues dans son programme, mais, car il y a un mais, selon l'Institut Montaigne, le seul sujet qui fait débat, c'est les emplois d'avenir dont le coût est surévalué. Sous-évalué, pardon. La direction du groupe l'a confirmé aujourd'hui en CE. On s'oriente bien vers le dépôt de bilan pour les quatre quotidiens normands, Paris-Normandie, Havre-Libre, Havre-Presse et Le Progrès de Fécamp. Le dossier passera mercredi devant le tribunal de commerce du Havre. Pour ce qui est de la Cernam, les candidats à la reprise, eux, seront connus ce soir. Depuis sa privatisation en 2005, l'ancienne filiale de la SNCF connaît des difficultés financières. 15 millions d'euros de pertes en 2010 selon les derniers chiffres encore disponibles. 1600 emplois à la Cernam sont en jeu. Le match Écosse-France d'hier a laissé des traces. Il y a de la casse pour la rencontre France-Irlande dimanche, match en retard de la deuxième journée du tournoi des Six Nations. Eh bien, les joueurs de rugby français devront donc se passer de Maxime Médard, Patrick Rivaz.
Par la force des choses, il y aura au moins un changement dans le 15 de France qui pour l'instant enfile les matchs et les victoires comme des perles. Maxime Médard, touché au genou, est donc forfait. Il sera remplacé par son coéquipier de Toulouse, Clément Poitronneau. C'est un coup dur pour l'équipe de France, étant entendu que Médard est un bon compagnon de jeu dans tous les sens du terme, mais que dans ce rugby de plus en plus stéréotypé, c'est peut-être the artiste du groupe. Hormis Médard, le 15 de France ne devrait pas être bouleversé avant d'affronter les Irlandais, les Iroquins, dans un match qui de toute façon sentira le roussi. Philippe Saint-André dresse un bilan mitigé de la victoire contre l'Écosse, avec comme défaut une mise en route trop laborieuse, trop lente, des plaquages manqués, des ballons égarés, le tout rééquilibré par un sang-froid tout britannique, une mêlée dominatrice, quelques étincelles et une discipline exemplaire et toute germanique. Bref, le 15 de France doit s'améliorer pour vaincre et pour convaincre. Édimbourg, Patrick Rivaz, France Inter.
Et France-Irlande, c'est donc du rugby. Rendez-vous dimanche au Stade de France à 16h. Vous écoutez France Inter, 15h03.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ben voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, un répondeur, c'est maintenant.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, voilà, Christophe de Sarlat. Alors, ça fait pas mal d'années que je vous écoute, toujours sur mon chemin du retour, en sortant de mon travail, et je sais pas pourquoi j'appelle, c'est la première fois que j'appelle, je viens d'écouter ce témoignage sur Piercelles, où, je vous le cacherai pas, j'étais obligé de m'arrêter en voiture, où ça m'a rempli d'émotions, ça a été un moment fort. Et un moment mais tellement émouvant, je trouve pas les mots. Je sais pas pourquoi j'ai appelé, mais en tout cas voilà, je vous appelle et pour c'est très bien un moment des élections justement de diffuser ça pour rappeler plein de choses et rafraîchir les mémoires à beaucoup de Français. Encore merci beaucoup là-bas, je suis Christophe de Sarlat. Merci.
Bonjour, Marie-Jeanne d'Avignon. Je viens d'écouter le reportage donc sur la déportation des homosexuels. Et la fin est particulièrement dure avec la Joe et son pauvre seau sur la tête et les chiens autour de lui. Et je dois vous avouer que la pub pour l'Euromillion juste après fait un petit peu mal au cœur.
Bonjour, c'est Maëlle. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour le reportage d'aujourd'hui avec la participation de Pierre Fell sur la déportation des homosexuels en France. Ça m'a énormément touchée. Je pense que Pierre Fell était malheureusement un très très grand militant pour une cause dont on n'a vraiment jamais entendu parler. Et je suis moi-même homosexuelle et ça m'a énormément touchée d'entendre déjà une personne de cet âge parler d'un sujet aussi grave avec autant de franchise, autant d'assurance, alors qu'il avait tué la chose pendant tant d'années. Donc voilà, un immense merci à toute l'émission pour avoir traité un tel sujet, et puis un immense merci à Pierre Fell, où qu'il soit. Merci beaucoup, c'était Maëlle d'Avignon.
Bonjour, merci pour le témoignage de Pierre Fell que j'ai connu dès 1994. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce sont les fichiers de la police française républicaine d'avant-guerre qui ont été transmis à la Gestapo. Autrement dit, une complicité, voire une duplicité de la République française auprès de la Gestapo. Et l'efficacité des fichiers Je suis allé avec Pierre Selle déposer une gerbe en forme de triangle rose, constituée de roses, sous l'œil très désapprobateur de certains sénateurs alsaciens. Pierre Selle cherchait au Struthof des traces de mémoire de son ami Joe. Malheureusement, tout ceci, son témoignage, ne contredit pas les propos du député UMP Pierre Van Est, car les Alsaciens sont considérés comme français. Je vous remercie beaucoup de ce moment de vérité.
Bonsoir Daniel, c'est Clément. Je t'appelle parce que je suis très très ému par l'émission que je viens d'entendre. J'espère que je vais réussir à faire mon message en entier. Je suis homosexuel, j'ai 33 ans. En 93, j'avais 15 ans, donc bien sûr, j'aurais pas pu écouter l'émission. Et je trouve ça tellement génial que tu réussisses à leur diffuser et à transmettre les gens, toutes les souffrances des autres, pour qu'on comprenne mieux aujourd'hui pourquoi il faut qu'on se batte, pourquoi il faut qu'on continue à lutter, à défendre les droits des homosexuels. Voilà, je voulais juste te remercier. Merci beaucoup pour tous ces moments d'émotion que tu nous fais vivre. C'était Clément à Palaiseau.
Bonjour Daniel, ici Pauline, j'ai 17 ans et je me disais qu'aujourd'hui, ton reportage sur l'homosexuel Pierre, eh ben, nous file une grande claque dans la gueule. Je suis moi-même amie avec beaucoup d'homosexuels et je me demandais si, au fond, ils n'étaient pas tous pareils à lutter contre leur grand-mère qui leur dit qu'elle les aime quand même ou bien contre leur père qui dit qu'au fond, il n'est plus leur fils. Donc voilà. Aussi, je voulais te demander, Daniel, si d'ici quelques années, tu étais libre pour que je vienne faire... un stage chez toi, avec toi, et puis que tu m'emmènes un peu comprendre le monde selon toi. Je souhaite intégrer une école de journalisme. J'ai ma journée de concours le 7 mars. Je peux t'écouter malheureusement que le mercredi et jeudi, sinon j'ai cours. Donc si jamais tu me diffuses et puis que tu me réponds, réponds-moi plutôt oui, un mercredi et un jeudi, mais pas le 7 si possible. Sur ce, j'espère te retrouver dans quelques années. Je voulais te dire que tu étais un peu mon héros. Merci et à bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril du 49, on est vendredi soir, et dans la série On ne perd pas toujours, eh bien, le César des meilleurs films documentaires a été attribué à tous au Larzac. Voilà, voilà, une bonne nouvelle pour commencer la semaine, puisqu'on sera lundi. Ciao, je vous embrasse.
Je vous remercie de tout cœur pour avoir passé mon message que je vous ai laissé sur le répondeur de là-bas, j'y suis, avec Daniel Mermet, il n'y a pas de problème, voilà. Et puis, merci à vous, et puis merci à Lorraine, et puis on va continuer à se battre pour nos emplois et notre synergie qui nous tient tant à cœur. Merci les Parisiens, merci de votre gentillesse, et bonne fin de journée à vous, puis peut-être à bientôt.
Eh bien, merci à vous aussi, ami de Gandrange qui a laissé ce message. Merci pour tous les autres messages suite à l'émission de vendredi qui vous a pas mal passionné et ému. Ce témoignage de Pierre Selle que nous avons rediffusé. Message qui datait de 1993. Oh là là, 1993. Alors aujourd'hui, retour à Gandrange justement. Notre dernier auditeur là va être... j'espère à l'écoute. Pourquoi on va à Gandrange? Lundi, le chef de l'État a annoncé qu'il était prêt à mettre 150 millions d'euros dans le dossier Florange. Faut pas confondre Gandrange et Florange, mais enfin, les problèmes sont un peu les mêmes. Et sa proposition n'a pas été... accueilli avec un très très grand enthousiasme, on peut même dire avec un certain scepticisme. Il a pourtant dit la France ne laissera pas tomber son industrie sidérurgique. Alors ce scepticisme, ça vient de Gandrange. Florange aujourd'hui, Gandrange hier, souvenez-vous. En tous les cas, les gens du coin s'en souviennent, et notre ami auditeur qui vient de parler, lui, le sait par cœur. En février 2008, le chef de l'État s'était engagé à trouver une solution pour Gandrange, mais il semble ne pas l'avoir trouvée. Le 4 février 2009, souvenez-vous, il y a eu l'inauguration d'une stèle en granit où l'on pouvait lire « Ici reposent les promesses de Nicolas Sarkozy ». faite le 4 février 2008 avec ou sans Mittal, l'État investira à Gandrange, avait-il dit. Alors, stèle, la stèle a été volée, dites donc. Oui, la stèle a été volée, et là, on a promis qu'elle reviendrait ou qu'on en ferait une autre à la mémoire de ce véritable mensonge d'État. On est habitué à toutes sortes de mensonges depuis quelques années, mais celui-là reste sans doute un des plus gros mensonges. Finalement, Gandrange a été fermé le 31 mars 2009 en mettant 571 salariés au tapis, et donc aujourd'hui c'est Florange, les sidérurgistes résistent, ils ont envahi le code de la direction et ils redoutent évidemment la mort programmée du site. Ça, il y a 5000 personnes qui travaillent sur ce site, dont 3000 en CDI. Alors la vallée de la Fensch, on y est déjà allé, on avait des reportages, si vous vous souvenez, documentaires avec Marcel Tria. Et aujourd'hui, donc, on va revenir à un reportage qu'on vous avait présenté, proposé en 2009, sur Gandrange, sur la fin de Gandrange, sur l'agonie de Gandrange. Pour comprendre, un mot qu'on n'employait pas à l'époque, c'était désindustrialisation. Il y a 3 ans, on disait pas encore désindustrialisation. Maintenant, on se demande pourquoi la France a à ce point désindustrialisé le pays. C'est peut-être parce que nos voisins allemands s'en tirent mieux. Il faut mettre plein de bémols autour de ce modèle allemand, vous avez compris. Mais enfin, sur le plan industriel, l'Allemagne s'en tire mieux. L'Allemagne a moins, beaucoup moins désindustrialisé que nous. Alors, la question de l'industrialisation, de la désindustrialisation et de la réindustrialisation se pose aujourd'hui. Mais pour comprendre tout ça, il faut comprendre, bien sûr, les protagonistes, les hommes, ce que ça leur fait, ceux qui vivent là depuis, et ils travaillent là depuis si longtemps, et ils n'y travaillent plus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une région en friche? Et qu'est-ce que c'est face à cette région en friche qu'un mensonge d'État sans importance? Eh bien, ça fabrique du ressentiment. Ça fabrique du ressentiment, et non pas de la révolte, comme on pourrait l'espérer. C'est surtout du ressentiment. Et le ressentiment, aujourd'hui, ben, ça gonfle des urnes de partis politiques assez nauséabonds. Voilà. Donc, il y a un enchaînement dans tout ça. Et il y a une histoire à tout ça. Et elle passe par Gandrange, elle passe par ce mensonge d'État sans importance dont nous avions rendu compte à l'époque. C'est donc notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG. À Briouze, dans l'Orne, le repère des AMG se tiendra le mercredi 29 à 18h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Le 29 à 18h au Brazza à Briouze. Salut.
Bonjour, je suis enquêtrice à l'INSEE et j'attire votre attention sur la fiabilité des chiffres de l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques. En effet, la fiabilité du calcul des chiffres du chômage et de l'indice des prix dépend de la qualité de la collecte des enquêteurs. Mais ce trimestre, ces chiffres ne devraient pas paraître, car nous sommes en grève pour une déprécarisation de notre statut. La direction de l'INSEE nous méprise en refusant de satisfaire nos revendications et méprise également les usagers de la statistique publique en continuant de publier des données comme si le mouvement n'existait pas, comme si la collecte d'informations sur le terrain était normale. Mais nous n'avons plus rien à perdre, on nous avait promis une amélioration de notre statut, mais aujourd'hui ça se résume à une précarisation supplémentaire. Qui pourrait accepter cela? Si l'INSEE publie quand même ces chiffres, alors il faudra s'interroger sur la manière dont ils ont été produits. N'hésitez pas à soutenir notre mouvement en parlant autour de vous, en contactant les syndicats nationaux de l'INSEE, en particulier CGT et Sud, et en consultant les articles de l'UMA, de Mediapart, de Rue 89 sur Internet. Merci à tous.
Bonjour à tous et à toutes. La mise à pied est un acte violent qui t'interdit de travailler, donc de faire, d'être et d'exister. Je comprends pourquoi certains se suicident. Je comprends pourquoi je ne fais rien, même pas le ménage, depuis ma mise à pied. Il en est de même pour la mention « faute grave » sur un motif de licenciement, mais avec plus de force et d'intensité, car en plus de t'interdire, elle culpabilise d'être et d'exister. Et avec encore plus d'intensité, si cette faute grave n'existe pas et est fabriquée de toutes pièces, dans l'intention de se débarrasser de vous coûte que coûte. Voilà ce que font les grands groupes, afin de pouvoir régner sans souci sur leur masse de salariés terrorisés. C'est ce qui vient de m'arriver. Mais c'est un peu raté pour le groupe en question, je ne suis pas suicidaire. Aux armes, citoyens.
La mauvaise nouvelle est arrivée par courrier hier.
France 3.
Selon la direction, impossible de sauvegarder une aciérie électrique et un laminoir à gants de range.
30 mars 2008.
595 emplois seront supprimés.
Pas de bruit, rien, bon, à part le pyrotome qui coupe. Le calme, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça.
Cette restructuration avait été envisagée mi-janvier par ArcelorMittal. Aujourd'hui, les salariés sont plutôt fatalistes.
Ici, ce qu'on veut faire, c'est détruire le social et détruire les connaissances. Et on se pose la question, demain, les jeunes, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Parce qu'on leur a tout cassé.
Qu'est-ce que c'est votre état d'esprit en ce moment?
J'en ai plus. À la limite, j'existe plus.
Pourtant, le 4 février dernier, le président de la République s'était déplacé à Gants de Range. Il avait promis une participation de l'État dans des investissements pour sauver l'activité du site.
L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens soit en pré-retraite, soit au chômage.
Mais Sarko, c'est un sacré baratineur, je vous jure. Il va dans le sens de ce que les gens veulent entendre. Ben les gars, ils l'applaudissent à la fin. Moi, je tombe sur le cul, je dis merde. Qu'est-ce qu'il raconte, ce président? Il raconte qu'il va continuer l'usine. Bon, on verra bien. Hein. Et puis, c'est couché au moins de deux. C'est couché au moins de deux.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Aline Leclerc. Gants de Range, un mensonge d'État sans importance.
Flight number 2, arriving from New York.
On est donc dans, tout près de la maison des syndicats, qui est au cœur en fait, du site d'ArcelorMittal Gants de Range, pratiquement. Qu'est-ce que c'est cet endroit en fait? C'est toute une vallée où il y avait un certain nombre d'usines comme ça, d'aciéries.
Voilà, nous sommes dans la vallée des villes en Ange.
Car toutes les villes s'appellent Florange, voilà. Gandrange, Ucange, voilà. Mondelange.
Knutange, Nilvange, Agodange, Trémange, Clouange, Rosselange, Gandrange. Voilà. Et dans toutes ces villes en Ange, il y avait des usines. Énormément d'usines, beaucoup d'usines. Et elles fabriquaient toutes des produits longs, on appelle ça des produits longs. Dans la sidérurgie, soit on fabrique des produits plats, soit des produits longs. Et puis aussi des aciers inoxydables. Donc là, dans cette vallée, on fabriquait des produits longs. Et nous sommes le résultat final de la restructuration de l'ensemble de la sidérurgie des produits longs. C'est la seule usine de produits longs qui existe en France.
Gandrange,
voilà. Il ne reste plus que celle-là, Gandrange. Et c'est la dernière usine qui existe, qui vont fermer. Eh oui, qui vont fermer. D'ailleurs, Mittal, il s'en tape des villes en Ange, de Gandrange et de tout ce passé. Là, il s'en tape. Lui, ce qui l'intéresse, lui, c'est les dividendes, c'est tout ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir que dans cette aciérie, il y a une histoire d'hommes, mais d'hommes? Que dans ces usines, il y avait des histoires d'hommes, des histoires de gens qui ont vécu ensemble, qui ont travaillé ensemble, qui ont construit des choses ensemble. Ça, c'est en dehors du temps. Ça n'a pas de sens pour lui. C'est des valeurs que moi je mets en avant. Lui, la seule valeur qu'il met en avant, elle est sonnante et trébuchante. Il n'y a pas d'autre valeur pour M. Mittal.
Je me rendrai à Gandrange dans les 2 mois à venir pour graver dans le marbre ses engagements. Tout ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, notre président de notre République, à ce sujet, au sujet de Gandrange, depuis sa première venue, le 4 février 2008, tout ça n'était que boniment. Un bonimenteur, des bobards pour embobiner l'opinion, pour embobiner des travailleurs. Vous connaissez cette histoire, celle d'ArcelorMittal, et on a voulu, avec Aline, revenir là-dessus, revenir sur cet extraordinaire mensonge d'État. Quelle est la conséquence, quelle est l'importance de ce mensonge d'État? On va peut-être un peu vite, en oubliant de mettre un point d'interrogation au bout de la phrase, sans conséquence ou sans importance. Est-ce que vraiment nous sommes tous résignés face à ce genre d'événements qui se multiplient? Celui-là en est sans doute la forme la plus paroxystique, mais c'est parce que on s'habitue aux autres, ça devient d'une banalité quotidienne. Il en faudrait des sociologues, il en faudrait des écrivains pointus, il en faudrait des cinéastes affûtés pour dire, exprimer ce que les hommes qui sont sur le terrain, ceux qui ont vécu, qui vivent ce qui se passe, disent avec autant de pertinence, autant de perspicacité, pas seulement sur ce qu'ils ressentent, bien évidemment, mais sur leur lecture, je dirais politique, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à Gandrange. C'est simple, c'est clair, ça vient de ceux qui ont de l'expérience. Et après tout, on est les experts de soi-même. Personne ne connaît mieux l'histoire que notre propre histoire. Et c'est ces histoires d'hommes, avec leurs mots, avec leurs luttes aussi, ils ont lutté. Et lutteront-ils encore? Lutterons-nous à leur côté? C'est la question avec laquelle nous nous baladons, si j'ose dire, jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, Gandrange, un mensonge d'État, sans importance.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à la face de la société. En blé, on va pas se faire emmerder, non? Mon père est mort à la guerre, mon frère se tue au travail, et les salauds s'en moquent bien, que l'on crève comme les chiens. Les salauds, les salauds, c'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon, et ils nous aident pour faire y paille, les copains de notre travail. Les salauds, les salauds, oui mais un jour on sera fort, et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leur poing pour foutre sur la gueule des rupins. Des salauds, alors ils vont envoyer leur police, mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule, et on va leur faire bouffer leur képi, parce que moi, s'il y en a un qui vient m'emmerder, j'y fous ma guitare à travers la gueule. Alors merde, on va pas se faire emmerder par les flics, non, par la gueule.
Venez, je vous emmène.
Alors, je mets un casque. Ok.
Voilà.
Vous travaillez, ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous?
Dans le groupe ArcelorMittal, ça fait depuis 68.
Vous êtes rentré en 1968?
En 1968, le 15 du 9 68. Attention la tête, hein.
Donc là, on est dans la Syrie. Alors la scierie, elle est fermée, mais vous continuez un peu à faire des...
On fait de la découpe de ferraille. C'est disons pour occuper le moral des gens.
Parce que vous, vous êtes pas reclassé, vous?
Non, pour le moment, toujours pas. Attention les escaliers.
Vous vous rappelez du jour où on vous a annoncé la fermeture?
J'étais au ski. Et j'ai un collègue qui m'a téléphoné, il m'a dit, ben, on va fermer la scierie de Gandrange. Écoute, moi depuis que je suis rentré à la scierie de Gandrange, on m'a toujours dit qu'elle allait fermer. Alors je dis ça, c'est encore une fois un bobard et tout. Et ensuite, j'ai entendu aux informations que ça allait fermer. Bon, ben, je dis, on va voir. Hein. Alors ici, vous rentrez dans la cathédrale.
On appelle ça la cathédrale?
C'est la cathédrale, oui.
Parce que c'est haut et...
C'est immense, oui.
C'est immense, il y a des poutrelles métalliques de tous les côtés.
De tous les côtés.
Il y a des machines, des couloirs, des passerelles.
Des passerelles. Comme ça, quand c'est calme, c'est atroce. C'est atroce. On a le moral à zéro, là. Le calme, on n'a jamais connu ça. C'est un silence de mort. On se croirait dans une église, là. La cathédrale.
Qu'est-ce que vous aimiez ici?
Ah, j'aimais bien, c'était l'ambiance. Comment on pourrait appeler en patois lorrain, on appelle ça se ch'tipler. C'est-à-dire se lancer des vannes. Hein? T'as vu comme t'es foutu ou t'es vraiment un blaireau ou des conneries comme ça. On avait une super ambiance. Ici, c'était de la rigolade.
Alors là, il y a les blouses, en fait, des gens qui travaillaient
voilà,
ici.
Voilà, qui travaillaient ici.
Avec leur nom, Gonzalez, voilà, hein. Furc, Maurice. Donc, ils ont posé leur veste anti-chaleur.
Voilà, en mémoire du travail qu'on a fourni.
Et là, elles sont alignées. Il y a 6 blouses alignées, 6 blouses argentées posées sur les machines.
Voilà.
Oh là là, donc là on domine tout.
Là vous dominez tout. Maintenant c'est le domaine des chats.
Maintenant c'est le domaine des chats.
Oui, voilà. Quand on a vu l'apport de jeunes qui sont arrivés, on était contents. On a dit on va pouvoir transmettre nos compétences. Et puis du jour au lendemain on leur dit que ça va fermer. C'était toute notre vie, tous nos copains, nos collègues de travail. Maintenant une petite note d'humour. On a des pigeons ici. Est-ce qu'ils vont être classés aussi eux? Non, on ne sait pas.
Et vous, vous avez l'impression d'avoir été pris pour des pigeons?
Exactement. On nous a fait miroiter plein de choses et pour le moment, on n'a toujours rien. Voilà.
Vous étiez là, vous, quand Nicolas Sarkozy est venu?
Oui, oui, oui. Quelle mascarade! Quelle mascarade! C'était vraiment...
À Gandrange, on attendait le président de la République. C'est un ardent défenseur de la sidérurgie lorraine qui s'est présenté.
France 3, 4 février 2008.
Au pas de charge et en tête d'une coulée continue d'officiels, Nicolas Sarkozy est venu rassurer les 600 salariés menacés par le plan de restructuration d'ArcelorMittal.
Première solution, on arrive à convaincre M. Mittal de laisser ouvert toute ou partie du site. Dans ce cas-là, on investira avec lui. Deuxième solution, qu'on essaye de trouver un repreneur, et il en existe, on investira avec lui pour laisser le site ouvert.
Mais vous, quand vous l'entendez dire que l'État va investir...
Oui, qu'ils vont s'occuper de nous, tatati tatata, et vous regardez sur les autres entreprises qui ferment en ce moment, qui doivent faire un tour à Caterpillar ou tout, ils tiennent le même discours. Ils tiennent le même discours, et ben, et les pauvres gens, ben, comme nous, puis... Au revoir messieurs, des gens ils se sont donnés pour leur société et puis voilà le remerciement. Quoi.
Première intervention du président de la République le lundi 4 février 2008, vous avez peut-être déjà oublié, mais à cette époque, il est en chute libre dans les sondages. Et c'est pas différent au fait qu'il se soit invité à la série de Gandrange, une visite de 45 minutes, suivie d'une cortège, une traîne de caméra, il grimpe sur une estrade, il promet aux salariés ce que l'on vient d'évoquer, il leur dit qu'on ne les laissera pas tomber, il promet que l'État va sauver Gandrange, je préfère investir pour maintenir l'outil de production plutôt que de payer de l'argent pour garder les gens chez eux, en pré-retraite ou au chômage évidemment. Les métallos qui sont là, qui sont inquiets, qui sont morts de trouille, sont emballés, ils applaudissent à tout rompre. Et le sujet, on l'a entendu, fait l'ouverture de tous les JT, de toutes nos télés. Les municipales sont dans un mois, ne l'oublions pas. Et ça joue beaucoup. C'est un effet pervers, sans doute qu'il faudrait ne pas oublier, un effet pervers de notre forme de démocratie, probablement.
Et puis il y a ce petit mot, ce petit détail. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, s'est marié la veille en catimini et il conclut ainsi sa prestation Gandrange comme voyage de noces. Il n'y a pas mieux. Évidemment, de quoi séduire les sidérurgistes qui sont là. Voilà l'histoire de Gandrange. C'est une longue histoire qui est en train de s'achever, telle qu'elle est racontée par Xavier Pandine, un ouvrier, un salarié de Gandrange.
Gandrange a été créé en 69. Et Gandrange, justement, a été créé pour dire, voilà, on va fermer toutes les usines qui est autour et on va créer un immense complexe sidérurgique qui va regrouper toutes les productions de toutes les usines de nos alentours.
C'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'elle est juste à côté, là, la Syrie, et c'est très haut, très vaste. C'est vraiment rien que dans le paysage, rien que géographiquement, c'est énorme, là.
C'est vrai que c'est comme un rappel de l'identité. Hein. C'est un monument où on peut mettre dedans 15 églises Notre-Dame de Paris. Vous voyez le monument que ça fait ? Elle fait plus de 70 mètres de haut. D'ailleurs, ça fait comme une espèce de petite montagne. On la voit de loin, de très très loin, parce que c'est le monument, le point culminant de toute la zone. Et l'ensemble faisait avant, en 75, 14 000 salariés. 14 000 salariés.
En 1975.
En 1975, c'est fou. Hein, 14 000 salariés. Et de restructuration en restructuration, ils ont fermé tout autour de nous. Dans la sidérurgie, il y a eu ces grandes phases de restructuration qu'on a connues dans les années 80. En 84, il y a eu le plan Acier, je m'en rappelle encore. Il y avait un slogan qui était écrit sur le toit de la Syrie, hein, qui est aujourd'hui arrêté. Hein. Et sur le toit, on avait écrit « Mitterrand trahison ». Parce que déjà en 84, ils voulaient déjà la fermer, on s'était battu pour l'empêcher de le faire. Grande histoire de lutte, grande histoire de bagarre. Quoi.
Et donc en 84, elle n'a pas fermé. Dans les années 90, comment ça a évolué ?
Monsieur Chirac était Premier ministre à l'époque. Il a désigné un patron commun, qui s'appelait Monsieur Francis Maire.
Qui fut après ministre de l'économie.
Voilà. Il a fusionné les deux groupes, Usinor et Sacylor. Et de la fusion des deux groupes, il a encore une fois fait une restructuration. Et c'est dans cette restructuration, il a encore une fois supprimé des milliers d'emplois. Il a tellement supprimé d'emplois à M. Francis Maire qu'il y a un dicton sur M. Francis Maire. Le dicton, il dit M. Francis Maire n'ira jamais en enfer. Pourquoi il n'ira jamais en enfer ? Parce qu'il fermerait encore les fourneaux et les aciéries. Tellement cet homme-là, il a détruit d'usines et d'emplois et de familles. C'est lui qui a ramené la sidérurgie française à la portion congrue. Et donc, il a fait un groupe rentable qui dégageait des bénéfices. Et il y avait à l'époque un petit bout qui ne plaisait pas trop, c'était notre usine. On s'appelait Unimetal à l'époque. Donc, les produits longs, ça ne lui plaisait pas trop à l'époque. Il disait, oh, ça perd de l'argent. Je vais le vendre. Puis, je connais un petit monsieur, là, un petit indien qui est intéressé, là. Donc il a vendu, en 99, il a vendu Unimetal à M. Mittal.
Pour combien ?
Pour rien. Pour rien, il lui a donné.
Un franc symbolique, on dit.
Mittal, il a eu l'usine gratuitement, mais complètement gratuitement. Voilà, et contradictoirement, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dès que Mittal a repris les rênes, il y a eu des évolutions favorables aux salariés. Il y a eu des embauches, il y a eu des salaires qui ont été augmentés, le statut du salarié s'est amélioré.
2006, c'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Mittal prend la main sur Arcelor et devient le groupe ArcelorMittal. Vous vous retrouvez dans le même groupe avec le site de Fleurange, qui est à quelques kilomètres d'ici, qui était resté Arcelor, vous étiez resté Mittal, et vous vous retrouvez avec Fleurange dans le même groupe, comme au temps d'Usinor.
Bah exactement. Et là, chez Mittal, il dit « je vais développer des productions ».
Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonnette.
Gandrange, un mensonge d'État sans importance. Nouvelle version d'une émission du 28 et 29 avril 2009. Là-bas, si j'y suis.
Il en faut quand même, il en faut des spécialistes, des experts, des médias, des intellos médiatiques pour arriver à calmer cette révolte naturelle face à tant d'indignation et tant d'indignité, d'injustice. Il en faut, hein, des experts pour calmer tout ça et pour faire croire que tout ça est une fatalité, un mauvais moment à passer, qu'il suffit de faire le dos rond et puis, comme d'habitude, on s'en sortira et qu'au contraire, il faut tous ensemble se serrer les coudes et puis voilà, comme une intempérie qui nous concernerait tous et qui ne serait que passagère et surtout sans cause et sans origine bien spéciale et sans issue et sans alternative non plus. On est à Gandrange avec Aline, à laquelle Jackie Maskelly, délégué CGT, fait découvrir un endroit formidable, mais absolument merveilleux, là où il est venu.
Salut Kevin, ah, ça va?
Bonjour.
Et c'est la machine numéro 1. Ça, c'est la CC, ce qu'on appelait la coulée continue numéro 1. Elle a démarré en août 80. Moi, j'étais pas là. Je suis arrivé en juin 82.
Et c'est ici que Nicolas Sarkozy est venu. Le 4 février à Gandrange, le 4 février 2008. Alors moi, je suis Jackie Maskelly, je suis secrétaire du syndicat CGT d'ArcelorMittal à Gandrange et élu au comité d'entreprise à Gandrange.
Donc là, on est très impressionnant, on est au cœur de cette espèce d'énorme hangar, mais très 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 haut, très profond, avec des tôles et des machines de tous les côtés. Et alors, donc c'est là que Nicolas Sarkozy est venu en février 2008.
Bah, il y avait eu une estrade qui avait été aménagée, bien sûr.
Là où il y a un tas de ferraille. Là, il y a un amas de ferraille, là, ici.
Oui, ferraille de blooms découpés, de ronds découpés. Mais c'est effectivement ici que Nicolas Sarkozy est venu.
Comment ça se passe? C'est vous qui l'invitez? Comment ça se passe?
Non. Nous avons d'abord été reçus à l'Elysée le 31 janvier. Et si nous avons été reçus à l'Elysée, c'est parce qu'il y avait une mobilisation importante des salariés, des élus. Donc Nicolas Sarkozy, il a dit « je reçois les syndicats bon, ». La rencontre, elle se passe bien. Il allait presque dans l'autre sens en disant que oui, effectivement, la sidérurgie en Lorraine, elle a de l'avenir. Je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose. Il ne faut pas que ce soit une industrie qui ferme. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit « est-ce que vous, les syndicats, vous m'invitez à venir à Gandrange ?» Et on lui a dit « oui, nous, monsieur le président de la République, on souhaiterait que vous veniez à Gandrange pour conforter ce que vous venez de nous dire, que la sidérurgie en Lorraine, elle avait de l'avenir. » Donc on était le 31 janvier et il a dit « bon, ben, je viens le 4 février à Gandrange à 9h. » Donc il est venu, c'est lui qui a dit « il est préférable d'investir. »
L'État préfère investir
dans une industrie pour la faire fonctionner
plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens soit en pré-retraite, soit au chômage.
C'est lui qui a dit
ce qui se joue, c'est la présence d'usines sur le territoire de notre pays.
Un pays sans usines, c'est un pays sans économie. C'est lui qui a tenu ces propos-là. Bon, les salariés qui l'écoutaient l'ont déjà applaudi. Il se disait peut-être que le président de la République, enfin, il a une volonté politique d'industrialisation en France. Constat aujourd'hui, il a menti. C'est le constat qu'on peut faire, quoi. On est dans l'accompagnement social et il y a des salariés qui sont pas reclassés.
La visite s'achève sur une note d'humour.
Et je dois dire que Gandrange, comme voyage de noces, il n'y a pas mieux.
9,4 milliards de dollars, c'est les bénéfices nets d'ArcelorMittal pour 2008. C'est un peu moins qu'en 2007, où c'était 10,36 milliards de dollars, c'est-à-dire 7,5 milliards d'euros, et ce qui était une augmentation de 30% par rapport à 2006. Vous voyez qu'il n'y a pas que des mauvais résultats, il n'y a que de mauvais ouvriers.
À demain 7h30.
Pourquoi demain 7h30?
Nos camarades de la CGT à Florange, ils ont appelé à un grand rassemblement devant les grands bureaux à Florange pour protester contre les annonces que le groupe ArcelorMittal vient de faire. Nous avons demandé au personnel, donc qui est encore là, de faire la démonstration là-haut que tous les salariés de Gandrange ne sont pas reclassés comme la direction le prétendait.
On peut vous dire, bah oui, mais pour le coup, c'est pas de leur faute, c'est la crise.
Je pense que, à partir des résultats records qui ont été annoncés depuis 2006, il n'y a aucune raison que les salariés subissent aujourd'hui les conséquences des politiques qui sont menées par Mittal. Bon, tu vois, ils sont là.
Deuxième rencontre en trois jours. Lakshmi Mittal, le PDG du groupe sidérurgique, a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy.
France 3, 16 janvier 2008.
Les deux hommes se sont déjà vus brièvement vendredi en Inde. Au programme, la suppression de près de 600 emplois sur le site de Gandrange, en Moselle.
Lakshmi Mittal.
J'ai expliqué au président que dans aucun cas il n'y aurait des licenciements. Nous allons continuer à discuter avec les syndicats pour trouver des solutions pour tous les employés.
Ici, on est à la Serpro.
Bilan, formation, reclassement, à Serpro. Passerelle pour l'emploi, c'est la pancarte. Hein. Là, vous êtes une dizaine. Vous êtes sept, donc vous travaillez tous à Gandrange sur la Syrie ?
Oui, tous à la Syrie. Et depuis l'annonce de la fermeture, on n'arrive pas à nous caser. On nous envoie ici faire un bilan de compétences, voir de quoi on est capable.
Vous n'avez pas eu d'offre d'emploi, vous ?
On n'a rien du tout. Le nombre qu'on est là, les sept, on n'a aucune offre d'emploi. Joseph, je travaille à Gandrange, je suis rentré en 79, octobre 79. J'ai fait que ça toute ma vie. Moi, j'ai commencé dans un atelier à 14 ans. Et à 17 ans, je sortais de l'atelier, je rentrais en usine. Je ne suis plus jamais sorti de l'usine. Et aujourd'hui, on se retrouve presque dans des bancs d'école. Maintenant, on vient de vous dire, eh ben, il faut voir comment vous travaillez avec vos mains. Mais les mains, pendant 30 ans, ils ont bien travaillé. Ils ont pu rapporter de l'argent à la société. Pourquoi qu'aujourd'hui, nos mains, il faut voir s'ils valent encore quelque chose.
Vous avez des enfants, vous ?
Oui, j'ai deux enfants. J'ai un fils qui s'est retrouvé dans la même situation que moi.
Et, il travaille avec vous ?
Oui, il travaille avec moi, en l'aiguiller sur Florange. Et il vient d'apprendre dernièrement que Florange fermait ses portes, VGT quoi. Donc,
Ils ont mis à l'arrêt le premier au fourneau, ils risquent de mettre à l'arrêt le second.
Donc on est à deux dans une famille déjà, le père et le fils. Le père qui se retrouve à la Serpro et le fils qui se retrouve sur la touche. Alors il y a beaucoup de questions à se poser. Plus personne ne sait si ça ment, si ça ment pas. Nos patrons nous racontent du blabla. Chez nous, c'est l'usine. C'est tout. Moi, j'ai vécu qu'en usine. Je connais que l'usine. Quand je partais de la maison, c'était pour aller à l'usine. Et quand je rentrais de l'usine, c'était pour aller à la maison.
Vous rappelez le jour où vous avez appris que la scierie de Gandrange allait fermer ?
Ouais.
Ça vous émeut encore, en fait ? Où est-ce que vous étiez, vous, à ce moment-là ?
Au coulé continu. Je travaille avec mon fils, et puis...
Vous n'avez plus de voix ?
Plus de bulletin.
Parce qu'on pense que ça fait un an et que du coup, l'eau a coulé sous les ponts et que pour vous, vous êtes passé à autre chose, mais pas du tout, en fait.
Non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. On est tous là, en ce moment, on est tous sur les nerfs. Bientôt, les seuls qui vont faire de l'argent, c'est les pharmacies. Parce qu'on est tous sous troxène, on est tous sous calmant. Tout le monde est énervé, on sait plus quoi faire, on sait plus de quoi parler. Et on se regarde, on se demande où on va aboutir, là. Même si on me propose la retraite demain, je ne la veux pas. Je ne me sens pas capable encore de rentrer à la maison et dire « ça y est, j'ai fini ma vie professionnelle, j'ai 53 ans et je veux tirer encore une paire d'années à travailler, avoir côtoyé des gens et avoir une place, me sentir responsable de quelque chose. »
Et quand Nicolas Sarkozy est venu, vous étiez là, vous ?
Oui, on était dans l'usine, on s'était rassemblés, il a été très bien accueilli, on était contents de le voir, c'est notre président.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous qui viennent ?
Ça représentait une porte de sortie déjà. C'était une assurance qu'on ait une place, qu'on ait quelque chose qui se passe. Mais je crois que c'est... On peut plus compter sur lui, quoi. C'est plus la peine. Il nous a trahis, et puis, tout le monde le sait. C'est carrément une trahison, ce qu'il a fait. On nous a pris pour des cons, quoi. Lui comme les autres, ils nous ont pris pour des imbéciles.
D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Mais pendant qu'ils ferment les deux tiers de notre usine...
Xavier Pandim.
Pendant qu'ils vont mettre en chômage des centaines et des centaines de salariés, des milliers de salariés à Florange, voire même des dizaines de milliers de salariés en Europe. Il y a une assemblée générale des actionnaires qui se tient le 12 mai. Il y a l'ordre du jour, c'est la rémunération des hauts dirigeants, la rétribution des stock options. Mais c'est fou, ça. C'est fou, ça. C'est vraiment le monde qui complètement tordu, qui marche complètement à l'envers. Alors vous voyez, il y a des hauts dirigeants qui sont étroitement intéressés à la valeur que va prendre l'action au cours de bourse. Et quand ils ont annoncé le 8 avril que 45% des installations allaient s'arrêter, il y a le cours de bourse qui a grimpé. Le même jour. Hein. Des décisions pour quelques actionnaires, et je rappelle que M. Mittal et sa famille, c'est 45%. Hein. Donc des décisions qui sont pour les actionnaires, pour une famille d'ultra-riches, d'ultra-mondiaux. Elles détruisent des régions, détruisent une vallée de l'Orne, comme notre vallée, là, avec la seule usine qui reste. Ils vont mettre au chômage des milliers de personnes, des sous-traitants qui sont mis à la porte, des intérimaires qui sont évacués. Mais c'est à gerber, ça. C'est à gerber un système comme ça. Il ne peut pas durer, ce système-là. Il est mort. Il ne peut pas durer. On ne peut pas fabriquer comme ça, constamment, du chômage, du chômage, du chômage. Ce n'est pas possible, ça. Et pourtant, quand je vois le G20 qui se réunit, quand je vois les mesures qui sont prises, c'est toujours dans le même sens. C'est pas des mesures pour les gens qui bossent. C'est pas des mesures pour l'emploi directement. C'est des mesures pour dire, on va essayer de maintenir comme on peut les profits de quelques-uns. J'ai parlé de mesures de chômage tout à l'heure, qui pourraient être de longue durée, vous voyez. Hein. Mais en soi, qui va payer cette mesure-là? C'est la collectivité qui va payer. Hein. C'est l'UNEDIC, c'est les pouvoirs publics, c'est ça, c'est nos cotisations. Alors nos cotisations, nos impôts vont payer ce que les grands groupes ne paieront pas. Et ce que les grands groupes ne paieront pas, c'est les dividendes qui se mettent dans les poches. Alors quand on dit oui, mais il faut maintenir, on n'est pas compte. Si on aide les entreprises, ça va permettre de maintenir l'emploi. Mon œil, aider les entreprises, ça n'a jamais servi à aider l'emploi. Ça a toujours servi à donner davantage de profit aux patrons, dont M. Mittal. Voilà à quoi ça va servir. Alors qu'il a eu 9 milliards de bénéfices en 2008, le monsieur. Alors qu'il va se taper 45,6%, hein, puisqu'il est actionnaire. Le monsieur.
Il a marié sa fille comme au temps des rois de France. C'était à Versailles en 2004. Lakshmi Mittal, ici, au bras de sa femme, a dépensé ce jour-là 50 millions d'euros. Une bagatelle pour cet Indien qui vit en Angleterre depuis 20 ans.
France 2, 30 janvier 2006.
Mais en dehors de ces quelques photos, cet industriel cultive volontiers le secret. Les rares images qui existent de lui le montrent en permanence, signant des contrats de rachat de sociétés dans le monde entier. Et enfin, une maison familiale hors de prix dans le centre de Londres.
Cette maison que nous avons discrètement filmée se cache derrière ces grilles qui donnent sur une allée totalement sécurisée. Lakshmi Mittal s'est en fait offert la demeure la plus chère jamais vendue en Grande-Bretagne, 100 millions d'euros.
Donc là, le 8 avril, en fait, hein, il y a eu une décision mondiale du groupe Arcelor d'arrêter certaines de ses usines. Et donc, dans les usines qui sont arrêtées pour un temps indéterminé entre 5 mois et 18 mois, il y a donc le site de Florange, qui est à quelques kilomètres d'ici, où des salariés de Gandrange devaient être reclassés.
Il a été annoncé l'arrêt des installations entre 5 et 18 mois. Personne ne connaît la durée. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. À des aciéristes de Gandrange, à qui on avait promis, qu'au 31 mars, ils seraient tous mutés. Ils ne sont pas tous mutés. Et où, en fin de compte, si mutation il y a, ils vont se retrouver dans une mesure de chômage. Toutes les entreprises sous-traitantes qui étaient sur le site de Gandrange, on leur a dit, vous en faites pas, on va vous proposer un marché dans l'usine d'à côté d'ArcelorMittal Florange. Quand on a contrôlé si c'était vrai, c'était très peu vrai. En réalité, ça s'est même pas avéré vrai du tout, parce qu'avec la fermeture des installations qui aura lieu fin avril, ils ont tous été jetés comme des malpropres.
Une pierre tombale pour enterrer les promesses du chef de l'État.
France 3.
Il y a deux jours, les salariés du site ArcelorMittal de Gandrange ont manifesté leur désarroi.
6 février 2009.
Un an plus tôt, jour pour jour, Nicolas Sarkozy s'était engagé à assurer la survie de ce site après l'annonce de la fermeture du four de cette aciérie. Hier, le président de la République a tenu à leur répondre.
J'avais demandé à M. Mittal 4 engagements. Il y en a 3 qui ont été scrupuleusement respectés. Premier engagement, remettre 30 millions d'euros d'investissement dans le site, parce que le site ne fermera pas complètement. C'est un four qui ferme. L'a-t-il fait? Oui. Deuxième élément, créer une école de formation. Cette école de formation est-elle créée? Oui. Troisième engagement de M. Mittal, 10 millions d'euros de sa poche pour revitaliser. Cet engagement est-il tenu ? Oui.
Le 31 mars 2009, la scierie de Gandrange fermait ses portes définitivement. Et le 1er avril 2009, Nicolas Sarkozy, président de la République française, promettait de sauver le site Caterpillar de Grenoble. On retrouve Xavier Fandin.
Nicolas Sarkozy, quand il s'est adressé aux Français dans son émission, à la télévision, l'émission télévisée, il a annoncé les choses en disant « Mais j'ai obtenu de M. Mittal des tas de choses. » Mais alors, mais il a menti comme c'est pas possible. Il a dit « Je vais reconvertir à Gandrange, je vais faire des choses à Gandrange, je vais faire du captage de CO2. J'ai obtenu de M. Mittal qu'il investisse 30 millions pour la reconversion. Il va y avoir un centre d'apprentissage. » Tout est faux. Mais alors, incroyable de mentir de cette... Mais tout ce que je viens de vous dire, qui a été dit par le président public, est faux.
C'est-à-dire que les 30 millions, Mittal ne les a pas investis ?
Non, il ne les a pas investis. Il les investira si la santé financière du groupe lui permet.
Le centre de formation, Nicolas Sarkozy dit à la télé, le centre de formation, il est créé. Il n'est pas créé ?
Ben, il n'est pas créé, et il ne sera même pas créé. Il serait peut-être éventuellement créé pour une classe dans un établissement qui existe déjà, qui est à Yutz, là, à quelques kilomètres d'ici. C'est une classe. Il n'y a pas de centre d'apprentissage, il n'y en aura pas.
Donc les 120 apprentis dont on nous parle, ils ne sont pas là ?
Non, ils ne sont pas là.
Ils parlent aussi de 10 millions d'euros investis par l'État pour la revitalisation.
Il n'y a pas d'obligation de résultat, comprenez ? Dans ces 10 millions, il y a une enveloppe qui va d'abord être affectée à un cabinet d'études. Alors, je ne vous dis pas... Le paquet de pognon dans le cabinet d'études. Alors déjà, là, ça fait un paquet d'argent. Et ensuite, il y a peut-être de la revitalisation, si ça se fait. Et il n'y a pas grand-chose qui profile à l'horizon. Hein.
Autre idée, c'est de créer un centre de captage du CO2.
Voilà. Donc, il devait faire une station de captage sur les hauts fourneaux d'Ayange. Ben, avec l'arrêt des hauts fourneaux, il n'y a plus de CO2 du tout. Hein. Il n'y a pas besoin d'en capter puisqu'il n'y a plus d'émanation de CO2. Et ensuite, il devait transporter ce CO2, il devait être transporté à 80 km de là, dans la Meuse. Pas à Gandrange, comme il l'a dit, et qu'il l'a encore répété. Hein. Et ça ne le gêne pas de mentir une fois, deux fois, trois fois, sur le même sujet. Hein. Et ça ne le gêne pas. Hein. Il ment effrontément, comme c'est pas croyable, mais qu'a été le toupé. Résultat des courses, ils ont fermé la scierie. Ils ont parcassé tout le monde, ils ont licencié tous les sous-traitants, ils ont licencié tous les intérimaires, et les gars qui sont à Florange, bon, on ne sait pas quoi va en faire.
Sur Gandrange, j'ai eu M. Mittal un nombre de fois. Incalculable, il a tenu ses engagements, la production d'acier mondial a été divisée par deux. Je peux passer quand même pas de ma faute si absolument, il y a moins, comme il y a moins de croissance, il y a moins de consommation.
Donc, il faut faire attention quand on fait des promesses.
Non, absolument pas, parce que les promesses que j'avais prises, ces promesses ont été scrupuleusement tenues.
Gandrange, un mensonge d'État sans importance, avec un point d'interrogation à la fin. Nouvelle version de cette émission de fin avril 2009. Un reportage d'Aline Leclerc. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, la-bas.org, et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, la page Facebook de l'émission Là-bas si j'y suis. Sandrine Laurent et Frédéric Boeuf étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Dans son livre Parole, parole, Frédéric Pommier décortique l'éthique de langage de nos politiques.
La baladurite, affection se manifestant par l'usage de l'expression « je vous demande de vous arrêter ». La déesquive, affection se manifestant par l'usage de l'expression « faute morale ». La jésus-christite, affection se manifestant par l'usage de l'expression « ne pas stigmatiser ».
Parole, parole, formule de nos politiques, de Frédéric Pommier, une coédition France Inter.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet. Salut.
Un navire de Costa Croisière est actuellement à la dérive au large des Seychelles. D'après les premiers éléments dont on dispose, c'est un incendie qui s'est déclaré à bord mais qui a été éteint, qui serait à l'origine de la perte du contrôle du navire. Ses moyens de communication sont toutefois, fonctionnent toutefois normalement. Le Costa Allegra a plus d'un millier de passagers à son bord. Tous sont en bonne santé, ont été regroupés. En janvier dernier, un autre navire de la compagnie, le Costa Concordia, s'est lui échoué au large de la Toscane en Italie, faisant 32 morts. Les résultats du référendum sur la constitution syrienne qui est censé ouvrir la voie au pluralisme politique. Les autorités syriennes viennent d'en donner les chiffres définitifs. 57,4% de participation hier et une adoption à 89,4%, ce qui n'empêche pas les violences de continuer. Au moins 14 personnes sont mortes aujourd'hui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme près d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, et à Homs. À l'étranger, toujours dans un lycée américain de l'Ohio, une fusillade a éclaté cet après-midi. Il y a plusieurs blessés parmi les élèves. Une personne a été interpellée. En français confirmé, la direction de Paris-Normandie demande aujourd'hui la mise en redressement judiciaire du quotidien. Élus et salariés de l'usine de tissage Albany Kopfa en Haute-Vienne ont manifesté aujourd'hui contre la fermeture du site à Saint-Junien. 133 emplois sont en jeu. Une réunion entre salariés et direction est prévue ce soir à la sous-préfecture de Rochechouart. L'annonce de la fermeture de l'usine a provoqué la colère des salariés et des élus locaux. Pourquoi fermer un site qui n'a jamais connu la crise, se demande un représentant CGT. Le maire de la commune a adressé une lettre à Nicolas Sarkozy pour lui demander d'intervenir. Il ne les a pas vus, François Fillon, quand il a traversé les allées ce matin du Salon de l'Agriculture. Une vingtaine de personnes atteintes de maladies dues, selon elles, aux pesticides ont manifesté aujourd'hui porte de Versailles à Paris. Pour l'instant, selon les manifestants, la Mutuelle Sociale Agricole n'a reconnu qu'une petite cinquantaine de cas de maladies professionnelles. Et toujours à propos d'agriculture, le nombre d'installations en France n'a jamais été aussi bas, selon la MSA. 13 000 installations en 2010, dernier chiffre connu. En 97, première année où les données ont été recueillies, on en comptait plus de 21 000. Une enfant de 7 ans a été retrouvée pendue dans sa chambre ce matin. Le drame a eu lieu à Sanilhac-Sagriès dans le Gard. Une enquête a été ouverte pour tenter de découvrir les circonstances du drame. L'homme suspecté d'avoir tenté de brûler sa fille après l'avoir aspergée d'essence samedi soir est toujours en garde à vue à Paris. Il pourrait être déféré devant la justice dans la soirée ou demain pour être mis en examen. Selon les premiers éléments de l'enquête, le père de confession musulmane ne supportait pas que sa fille ait une relation avec un jeune homme de confession juive. Parmi les 231 candidats au prix Nobel de la paix qui sera décerné en décembre prochain, figure Moncef Marzouki, le nouveau président tunisien. On retrouve également Bill Clinton, l'ancien président américain, ou encore le soldat américain Bradley Manning, accusé lui d'avoir transmis à Wikileaks des documents américains classés secrets. Et à propos de Wikileaks, la société américaine privée de renseignement et d'analyse stratégique, Stratford, dénonce aujourd'hui la publication de ses courriels par le site de Julian Assange. Wikileaks a publié en effet aujourd'hui 5 millions de mails volés en décembre par des pirates informatiques du collectif Anonymous. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans Le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit
mes habits et moi.
Art Mango et Lara Guirao.
Des habits,
Bertrand Betch.
Avance, avance, même s'il est trop tard. Avance, avance.
Et Elephant.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
C'est à vous Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, évidemment, c'est le triomphe de The Artist, ce film plébiscité un peu partout. Et puis là, aux Oscars, on est très très fiers, très heureux. Alors on cite les Oscars, notamment meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur masculin, bien sûr. Et moi, je cite, on n'oublie pas, mais enfin, je vais quand même insister sur Ludovic Bourse, qui est l'arrangeur, le compositeur, qui a travaillé sur ce film et qui, après avoir donné la musique de OSS 117, 2007, Le Caire, Nid d'espions, partagé cette musique avec Kamel Esch-Cher. Et puis après, il a signé la musique du deuxième volet en 2008. Il a composé aussi pour un documentaire environnemental, Nous resterons sur Terre, en 2009. Bref, on lui souhaite une bonne continuation à Ludovic Bourse, qui n'a pas oublié d'ailleurs de citer ses sources et puis de remercier à travers son écriture les grands compositeurs du cinéma d'autrefois, Waxman, Steiner, Bernard Herrmann, et puis il a rendu hommage aussi aux comédies musicales, au jazz, bon, un peu de cette BO, comme on dit, de The Artist, ouverture. Ouverture musicale du film The Artist, donc partition signée Ludovic Bourse, encore toutes nos félicitations. Et la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est la disparition de Maurice André, le fameux trompettiste. On a appris ça hier matin. Il nous a quittés pendant la nuit à 11h du soir, 23h exactement, et la nuit de samedi à dimanche. Maurice André, c'est la trompette, c'est presque un lieu commun de dire ça, mais enfin, c'est grâce à lui que cet instrument a pris son vol en France et puis dans le monde. Une renaissance absolument somptueuse pour cet instrument qui était plutôt depuis des années intégré à l'orchestre et qui est devenu un moyen d'expression tout à fait universel, qui pouvait tout exprimer, et toutes les musiques surtout. Maurice y tenait beaucoup. Il est venu souvent dans cette émission, il nous a parlé de son enfance, sa naissance à Alès, et puis le travail dans la mine à partir de l'âge de 14 ans dans les Cévennes, et la découverte de la musique